France Inter, le 18-20.
Une semaine en France en compagnie du philosophe Michael Fessel. Ce soir, il publie « Récidive 1938 » aux presses universitaires de France. Un ouvrage dans lequel il s'interroge sur la solidité de notre démocratie quand elle rétrécit sous le poids des lois sécuritaires et des renoncements sociaux. « Récidive », un livre dans lequel il est question de l'année 38, mais où les réflexions sur la montée des populismes sont bien actuelles. Elles sont d'ailleurs à méditer à l'heure où les Européens s'apprêtent à voter et où la France cherche une issue à la crise des Gilets jaunes. Une crise qui a été éclipsée cette semaine par l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Le chef de l'État ne s'y est pas trompé, il a reporté ses annonces. Cela dit, certaines ont fuité. On aura l'occasion d'en parler et d'aller écouter ce qu'en disent les Gilets jaunes. Michael Fessel, lui, nous aidera à comprendre pourquoi cet incendie a provoqué une telle émotion. Il nous dira à quoi cela nous a renvoyé. C'est peu dire que nous sommes ravis d'avoir un philosophe à nos côtés ce soir pour tenter d'y voir plus clair. Également au sommaire de cette émission, préparée par Irène Menem, Jimmy Bourquin et réalisée par Marie-Annick Rimbaud, les bonnes ondes de Sandrine Houdin. Ce soir, un coiffeur qui va à la rencontre des sans-abri et qui leur offre une coupe de cheveux dans la rue. À 19h20, au téléphone sonne, question sur l'esprit européen en général et sur le projet européen en particulier. Ce projet a-t-il encore un avenir en 2019 et si oui, lequel ? Question posée à un mois des élections européennes en partenariat avec Philosophie Magazine. Vous pouvez déjà nous appeler pour en parler au 01 45 24 7000.
Claire Servageant. Une semaine en France.
Bonsoir Michael Fessel.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Vous êtes professeur de philosophie à Polytechnique. Vous avez publié des ouvrages sur des sujets très divers, sur la nuit, la consolation, l'intime, les questions sécuritaires, les discours apocalyptiques. On parlera évidemment dans quelques minutes de votre dernier livre, Récidive 1938, publié au PUF, parce que ce livre nous interpelle à plus d'un titre et il nous force à réfléchir. Mais j'ai d'abord une question sur ce qui a fait la une de l'actualité toute la semaine, cet événement qui a écrasé le reste, l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Puisque vous êtes philosophe, vous êtes capable de mettre des mots sur nos émotions collectives, à la fois intimes et collectives. Aidez-nous à comprendre ce qui s'est passé. Pourquoi une telle émotion ?
Effectivement, il y a peut-être un décalage entre le fait lui-même, qui évidemment est grave, mais dont on notera pour une fois qu'il se termine relativement bien. Hein. Tout le monde s'est demandé si la cathédrale allait tenir, elle a fini par tenir, heureusement. Un décalage, je disais, entre ce fait et puis la perception qui en a été donnée, l'émotion qu'il a suscité. Souvent, un événement, d'ailleurs, c'est moins un fait que cette émotion elle-même. Alors, pour l'expliquer, beaucoup de choses ont été avancées. Je crois que la France, ce n'est pas un secret, est un pays qui est inquiet sur son avenir. Et lorsque l'on est inquiet sur son avenir, ou d'ailleurs sur son présent, on a tendance à se reporter à son passé. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la France a un passé plutôt glorieux, avec évidemment beaucoup d'ombres, mais enfin, en tous les cas, que les cathédrales, et peut-être singulièrement celle-ci, manifestent ce qui a été une certaine grandeur de la France, une certaine beauté aussi. Et ce qui a été troublant dans cet incendie, en réalité, c'est de voir que qui m'a beaucoup intéressé d'ailleurs, c'est de voir que le passé, dont on pourrait penser que justement il est au moins ce qui tient dans les périodes de crise, est lui-même fragile, qu'il a une fragilité qui ici se manifestait par la consommation littérale de cette cathédrale. D'autant plus, ça n'a pas été remarqué parce que c'est peut-être un peu difficile à dire, mais néanmoins je crois que tout le monde y a été sensible indirectement, que cet incendie, vu par des caméras, toujours aujourd'hui et tout aujourd'hui est filmé, dans le soleil couchant, avait quelque chose d'assez beau, je dirais à la fois de lugubre et de beau. Et donc par conséquent, il y avait un effet de fascination, de stupeur.
Il y avait chez nous une forme de sentiment d'impuissance, de sidération, un vertige à regarder tout ça, c'est-à-dire ces siècles-là qui, en quelques heures, auraient pu tout embraser.
Qui auraient pu disparaître, effectivement, parce que une cathédrale, singulièrement celle-ci, puisqu'elle a plus été magnifiée dans un roman de Victor Hugo, une cathédrale, c'est un témoignage du passé dans le présent lui-même. Donc Paris aujourd'hui est une ville mondialisée, globalisée, marquée par toute une série de phénomènes hyper contemporains, et se dresse dans l'île de la cité, c'est cet édifice qui manifeste, ce qui fait d'ailleurs là aussi son caractère touristique, qui manifeste, je dirais, la présence de ce qui n'est plus que mémoire. Et certainement, beaucoup ont été inquiets, angoissés, je ne parle pas de ceux qui en plus ont une foi catholique intense, que là il y a une dimension qui s'ajoute, mais beaucoup ont peut-être été inquiets de perdre aussi cette mémoire-là, et d'une certaine manière cette robustesse de notre propre passé. Ensuite, évidemment, ce qui s'est produit au-delà de l'émotion, c'est qu'on se rend compte que dans une société traversée par des contradictions, des formes de violence, en tout cas une conflictualité, les symboles ne tiennent pas très longtemps, c'est-à-dire qu'après 24 heures, d'emblée, toute une série de controverses sont...
Alors ça, on va y revenir, mais quand même encore un mot sur le côté paradoxal. Ça a été dit cette semaine, mais j'aimerais vous entendre là-dessus, sur le fait qu'on est quand même dans un pays laïque, où on critique facilement les religions, mais on a vu des gens pleurer quand même devant une cathédrale en train de brûler. C'est quoi ce paradoxe?
Les cathédrales ne cessent pas d'exister dans les périodes contemporaines. Évidemment, elles sont des lieux de culte pour ceux qui s'y rapportent par la prière. Maintenant, les cathédrales, par leur beauté, je dirais, surtout celle-là d'ailleurs, qui est quand même aussi historiquement, je dirais, caractérisée par son architecture, par la rencontre entre l'Orient et l'Occident, le retour des croisades, la dimension aussi... lié quand même à l'histoire qui n'est pas seulement celle de la chrétienté, celle de la rencontre entre la chrétienté et l'islam. Bon, ça devient des objets, ils deviennent des monuments, je dirais, plus génériques. Alors, on peut d'ailleurs le regretter en un certain sens, parce que c'est vrai que la cathédrale Notre-Dame est beaucoup plus visitée par les touristes que par les croyants, mais après tout, bon, c'est une dimension de ce qu'on appelle la sécularisation. Et heureusement d'ailleurs que que sortir du Moyen-Âge, pour le meilleur d'ailleurs, n'a pas forcément voulu signifier pour la France détruire tout ce qui avait été constitué auparavant. On parle souvent, à tort et à travers, je trouve, des racines chrétiennes de la France. Sans parler de racines, il y a une dimension évidemment chrétienne qui, dans ces monuments, en tous les cas, a traversé les Lumières, la Révolution elle-même, qui est encore là, qui d'ailleurs, finalement, ça s'est avéré, tient debout.
Alors j'ai une question à ce sujet à vous poser, Michael Fessel, parce que j'ai pu lire dans une de vos interviews que vous vous définissez, vous, comme philosophe chrétien, tout en étant non-croyant. Expliquez-nous ça.
Oui, philosophe chrétien, c'est parce que d'abord la philosophie a beaucoup de rapports avec le christianisme, qu'on le veuille ou non. Il y a des philosophes athées, bien sûr. Moi, je dirais les choses, bon, c'est évidemment un peu subjectif, mais je dirais que dans la manière dont j'ai d'aborder les problèmes, dans mes livres, dans mes manières de réfléchir, je suis marqué, je ne peux pas faire comme si ça n'était pas le cas, par une certaine dimension du christianisme, disons, en tout cas celle qui consiste à dire que entre l'humanité et la divinité, il n'y a pas d'opposition absolue, parce que c'est finalement quand même ça une des leçons du christianisme. Dieu est censé s'être fait homme. Par conséquent, entre l'absolu, le relatif, entre l'humain et le divin, il y a sinon une continuité, du moins des passages possibles. C'est pour ça que je suis très sensible, par exemple justement à la grandeur de ces cathédrales qui manifestent par leur hauteur déjà la flèche. D'ailleurs, on en a beaucoup parlé, la volonté de se rapprocher du ciel. Pour autant, je dirais, je n'ai pas la foi. Ça veut dire que je ne suis pas convaincu, je ne sais pas, je ne le crois que quand j'écoute Jean-Sébastien Bach, si Jésus était vraiment le Fils de Dieu. Mais d'une certaine manière, là où je suis, ça n'a, je ne veux pas heurter personne, hein, mais pour moi ça n'a pas une très grande importance, parce que ce qu'il a dit, en revanche, ce qu'il a signifié, ce qu'il a énoncé, continue aujourd'hui à m'inspirer.
Alors on va poursuivre notre réflexion, Michael Fessel, sur tous ces sujets, mais on va d'abord se remettre en mémoire, dans l'oreille en tout cas, ce qui s'est passé cette semaine grâce à ce mix tout sonore qui a été mis en onde par Jérôme Chélius.
Tous les yeux s'étaient levés vers le haut de l'église. Ce qu'il voyait était extraordinaire. Sur le sommet de la galerie la plus élevée, plus haut que la rosace centrale, il y avait une grande flamme qui montait entre les deux clochers, avec des tourbillons d'étincelles.
J'ai hurlé en fait quand on a vu la tour. Je sais pas, j'ai heureusement de pas être plus près que ça, parce que ça a vraiment vu la tour complètement s'effondrer devant nos yeux. On a vu cette tour en fait vraiment tomber. Je l'ai vu pleurer. Moi, je me suis mis à crier. Je pense que c'est un moment assez fort.
Je pleure, j'ai plus de larmes, je pleure. C'est un symbole, c'est l'histoire de France qui est en flammes. C'est un trésor national qui est en train de partir en fumée.
Moi, j'ai souhaité que le président se taise, il le fait, je l'en remercie. Pour l'instant, nous sommes en deuil. Notre-Dame est depuis plus d'un millier d'années le métronome des Français.
Nous rebâtirons Notre-Dame, parce que c'est ce que les Français attendent. Parce que c'est ce que notre histoire mérite. Parce que c'est notre destin profond.
L'incendie est complètement maîtrisé. Il est pratiquement éteint. Les deux beffrois ont été sauvés.
Les pompiers de Paris ont été une fois de plus héroïques.
Eh bien, quand on entre, on regarde, parce que moi je regarde toujours en l'air, pour voir les voûtes et tout, et là, c'est à ciel ouvert. Là où la flèche est tombée, à l'intérieur, naturellement, ça a emporté une bonne partie des voûtes.
Moi, je ne suis pas parisienne, je suis bretonne. J'ai vu les infos, comme tout le monde hier à la télé. J'ai passé ma soirée à pleurer. Fallait vraiment que je vienne. J'avais pas le choix. En fait, j'avais juste pas le choix. Ma place était ici aujourd'hui.
Je suis musulman, malgré que je suis musulman, ça me fait mal au cœur pour les chrétiens. Je trouve pas les mots, quoi.
Nous rebâtirons la cathédrale Notre-Dame plus belle encore. Et je veux que cela soit achevé d'ici 5 années. Nous le pouvons. Et là aussi, nous mobiliserons.
Nous devons nous réjouir de ce que des personnes physiques, très nombreuses et parfois très modestes, que des personnes physiques moins nombreuses et parfois très riches, que des entreprises souhaitent participer à l'effort de reconstruction d'un bâtiment qui n'est pas un bâtiment, ou plus exactement qui n'est pas seulement un bâtiment.
C'était tellement un symbole de la France que oui, moi je vais donner. Je vais pas donner comme LVMH de 100 millions, ça c'est certain, je les ai pas.
S'ils sont capables de donner des dizaines de millions pour reconstruire Notre-Dame, c'est la démonstration que certains dans ce pays sont très 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 riches et que la question du partage des richesses, elle est posée plus que jamais.
Dans le Paris de Notre-Dame, de Notre-Dame de Paris.
Colgo questa occasione.
Je saisis cette occasion pour exprimer à la communauté diocésaine de Paris, à tous les Parisiens, à tout le peuple français, ma grande affection et ma proximité suite à l'incendie de la cathédrale Notre-Dame.
De voir les gens se rassembler comme ça pour ce qui vient de se passer, c'est juste incroyable, quoi. J'ai pas de mots, je suis très émue.
Et encore merci à Jérôme Chélius. Une semaine en France, donc en compagnie du philosophe Michael Fessel ce soir. Vous le disiez tout à l'heure, effectivement, les polémiques ont repris, notamment à propos de ces dons assez colossaux. Faut quand même bien le dire.
En effet, parce que cet incendie ne doit pas nous faire oublier qu'il y a, si je puis dire, un autre incendie qui couve en France depuis plusieurs mois, qui concerne non seulement les gilets jaunes, mais là aussi l'émotion que ce mouvement, positive ou négative, inspire aux Français. Et en particulier, cette flamme-là, si je puis dire, elle porte en particulier sur la question de la justice fiscale. Et donc, c'est pas très étonnant que les dons et la possibilité ou pas, d'ailleurs, ça a été discuté de les utiliser pour ne pas payer d'impôts, en quelque sorte. Donc, c'est cette question des dons a très vite, et on peut comprendre quand même parfaitement, en tout cas, moi, je comprends parfaitement pourquoi, pris le dessus, parce que ça peut apparaître effectivement, je dirais pas indécent, mais en tous les cas, décalé, de donner, je parle ici des grandes entreprises, autant d'argent pour une pour une cathédrale. Ça manifeste aussi d'ailleurs peut-être la difficulté financière de l'État, alors que il y a en France un mouvement géant qui porte spécifiquement sur la question sociale depuis plusieurs mois. Et ironie de l'histoire, évidemment, on devait attendre de savoir les mesures que prenait le président de la République. Il a annoncé, d'après votre journal, qu'il les annoncerait jeudi, juste au moment où cet incendie a pris feu. Et par conséquent, où la cathédrale, pardon, a pris feu. Il y a eu un choc entre les deux, qui fait que on ne peut pas non plus demander à une nation entière, je dirais, de rester dans une sorte de deuil constant. Il y a de la vie aussi dans ce pays, je dirais, il y a des pierres et des pierres vivantes, et par conséquent, je trouve que on a aussi raison de se demander s'il est bien normal, dans une situation aujourd'hui tellement tendue, de donner autant d'argent pour rénover un monument aussi sublime soit-il.
Et d'ailleurs, c'est surtout l'Église et les organisations caritatives qui sont venues rappeler qu'il n'y a pas que les pierres, mais aussi les pauvres.
Il y a les pauvres. Il n'y a pas que Notre-Dame de Paris, il y a les misérables.
Exactement. Parmi les pistes envisagées par Emmanuel Macron pour tenter de sortir de la crise des gilets jaunes, alors on ne sait pas encore tout, mais on sait que ça a fuité, il y a quand même quelques pistes. Il y a la suppression de l'ENA, Michael Fessel. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée, ça?
Ah, le problème, c'est de savoir par quoi on va le remplacer, cette école. Là, pour moi, c'est pas tellement d'ailleurs une question d'école, au sens où il est certainement, j'enseigne en plus dans une grande école, il est inévitable, nécessaire que la formation des hauts fonctionnaires soit garantie par l'État, hein, plutôt que par le privé. Après, la question qui se pose, c'est de savoir non seulement quel type d'enseignement est donné dans ces écoles. Là, je ne suis pas spécialiste de l'ENA, mais j'entendais son ancienne directrice dire que l'enseignement qui était apporté était de plus en plus managérial et de moins en moins politique. Et puis il y a surtout, c'est ça qui concerne en particulier la question des grandes écoles à mon sens, ce qui se passe avant, c'est-à-dire que on peut effectivement s'étonner, se scandaliser que à l'ENA il y ait aussi peu de fils d'ouvriers ou de filles d'ailleurs d'ouvriers ou d'employés, mais je ne crois pas que ce soit l'école comme telle ni le mode de recrutement par concours qui soit ici en cause principalement, c'est ce qui se passe auparavant, c'est-à-dire les inégalités scolaires qui apparaissent dès le collège, le lycée a fortiori en classe préparatoire. Donc je dirais que c'est une mesure symbolique, sans doute un peu disruptive, comme on dirait aujourd'hui, mais que pour l'instant elle ne me paraît pas, tant qu'on n'aura pas dit ce qui va remplacer cette école, elle ne me paraît pas de nature à calmer la colère des Gilets jaunes.
Alors voilà, justement, demain ce sera l'acte 23 des Gilets jaunes, et on va aller écouter ce que disent les Gilets jaunes à l'issue de cette semaine. C'est un reportage de Delphine Evenou, elle s'est rendue à Montabon, c'est dans la Sarthe.
Sortie d'autoroute sur ce terrain prêté par une agricultrice, on se relaie tous les jours depuis le 17 novembre. Deux caravanes, une cabane en bois et une terrasse abritée. Dominique, journal ouvert sur un article.
Oui, le grand débat, c'est que le président devait dire.
Une ligne retient son attention, plus que le RIC local ou la suppression de l'ENA.
Bon, si la retraite est indexée sur le coût de la vie, ce serait une petite victoire quand même.
Son voisin acquiesce.
Parce que là, avec un loyer de 400 euros, avec 1000 euros de retraite, c'est pas possible.
S'il annonce ça, vous quittez ce rond-point de Montabon ?
Je suivrai tout ensemble, parce que moi je suis pas tout seul. Hein.
Mais avant d'envisager un départ, ils attendent déjà que le président parle. Le report des annonces lundi soir est resté en travers de la gorge de Marc, intérimaire.
Ce qui est arrivé à Notre-Dame de Paris, c'est tragique. Par contre, je ne vais pas dire que le pays il a à feu et à sang, mais presque. Et il a oublié les gilets jaunes. C'est pas bien.
Le quadragénaire sera quand même devant sa télé le moment venu.
Même si on ne le porte pas dans notre cœur actuellement, on va quand même regarder, on va quand même écouter ce qu'il va nous dire.
Enfoncé dans son siège, regard planté dans le sol, Noé passe son tour.
J'attends rien du tout, absolument rien du tout de lui.
Les centaines de millions d'euros récoltés en quelques jours pour Notre-Dame l'ont écœuré.
Ça prouve une chose, c'est que les pierres, c'est plus important que l'humain. Nous, ça fait 5 mois là qu'on se plaint. Il y a des gens qui n'arrivent pas à vivre. Et là, 2-3 pierres qui sont tombées, là, tout le monde est dessus. On peut voir les gens mourir, je comprends pas.
La relève de l'après-midi arrive, la cabane en bois de Montabon n'est pas prête d'être démontée.
Michael Fessel, cette question des inégalités, elle a donc été remise à la une par les Gilets jaunes depuis 5 mois. Et c'est vrai qu'on avait un petit peu perdu l'habitude quand même d'avoir ce genre de revendications de façon massive, ce retour d'une certaine façon de la lutte des classes dans ce pays. On avait toujours la question identitaire qui était posée comme ça au-dessus, et puis là, hop.
Oui, le social se rappelle hein à nos mémoires, je dirais, et sous une forme assez virulente et d'ailleurs aussi étonnante, parce que ce n'est pas par la forme, ça a été mille fois remarqué, par la forme, je dirais, syndicale habituelle. Il y a eu des tentatives ces dernières années contre la loi travail, mais ça a eu beaucoup moins d'impact. C'est beaucoup plus ici la révolte des invisibles. Mais j'ai été sensible dans votre son au fait que, quoi qu'on pense par ailleurs de ce mouvement, il s'agit ici de mettre sur l'avant le devant de la scène, pas seulement des questions sociales, mais je dirais quasiment maintenant, nous en sommes aux questions vitales, c'est-à-dire nous ne pouvons plus vivre. L'indexation de la retraite sur la hausse des prix m'apparaissait, moi je ne suis pas économiste, j'étais surtout surpris que ça ne soit pas déjà le cas, si vous voulez, parce que quand on sait le niveau de la plupart des retraites en France, on est étonné qu'elles ne suivent pas l'inflation. Donc en réalité, et c'est ça l'intérêt malgré tout des Gilets jaunes, la question sociale ici est devenue une question, je dirais, qui a pris de la chair, parce que on a vu, on a entendu, le simple fait d'ailleurs de choisir cette couleur éclatante, si je puis dire, enfin visible du jaune était manifeste, on a vu ou entendu des choses qui apparaissaient comme dans mon imaginaire, je parle ici pour moi, ou dans les habitants des grandes villes en particulier, ou des centres-villes un peu gentrifiés, apparaissaient comme assez abstraites. Hein. On peut dire, par la statistique, la hausse des inégalités ou celle de la pauvreté, ici c'est le discours et le corps qui reprennent le dessus pour montrer que quand on parle de pauvreté, on parle en réalité de quelque chose d'autre que de chiffres, on parle de vie empêchée.
Et le grand débat, qu'en avez-vous pensé ?
Le grand débat a réuni, d'après ce que j'ai vu, plutôt des gens qui n'étaient précisément pas ceux qui manifestaient. La question évidemment du débat en tant que tel ne se pose pas en démocratie, au sens où elle est évidemment valable et valide. Je ne connais pas, donc, bien qu'il y ait des choses qui aient fuité, les résultats de ce grand débat. Moi, c'est le caractère un peu vertical de cette discussion qui m'a un peu gêné, au sens où des questions étaient posées au président la plupart du temps, ou à des représentants de l'État. La réponse venait et ensuite le débat était clos. Je dirais que dans une démocratie, le débat, c'est d'abord de la délibération, et la délibération doit finir ou terminer, je dirais, au niveau des citoyens plutôt qu'au niveau de leurs représentants.
Michael Fessel, pourquoi cette question des inégalités, elle est fondamentale? Et là, on va en arriver bientôt à votre livre. C'est parce que vous nous dites que quand il y a autant d'inégalités, eh bien, on finit par tomber dans l'autoritarisme qui paraît comme une solution raisonnable. C'est ça? On déplace le curseur? Les problèmes?
Oui, on déplace les problèmes parce que les inégalités sociales ont déjà un caractère, je dirais, quand elles sont particulièrement grandes, d'injustice. Mais ce qu'on ne remarque pas assez, à mon sens, et que l'histoire nous apprend, c'est qu'un certain, passé un certain seuil d'inégalité sociale, c'est l'amour pour la liberté qui s'affaiblit. Parce que défendre la démocratie, faire acte de progressisme, ce sont des valeurs qui ont évidemment tout pour plaire, je dirais, et auxquelles j'adhère, mais il y a des conditions matérielles pour être démocrate d'une certaine manière. C'est-à-dire que si la démocratie signifie la mise en concurrence généralisée, l'accroissement de la pauvreté pour un grand nombre de nos concitoyens.
Mettre les gens dans une forme de précarité qui les inquiète aussi.
Qui les inquiète en permanence et qui fait qu'ils ont de l'avenir justement une notion extrêmement négative, ce qui inévitablement renforce le goût ou le désir pour des solutions autoritaires, à condition d'ailleurs qu'elles apparaissent comme plus sociales. Alors c'est bien ce qui se produit, parce que ce qu'on appelle à tort ou à raison populisme aujourd'hui, les populistes qui ont le vent en poupe, c'est-à-dire ceux qui viennent plutôt, disons, de l'extrême droite, ont ce paradoxe qu'ils présentent, il ne faut pas les croire d'ailleurs, mais enfin ils présentent, à mon sens il ne faut pas les croire, mais ils présentent leur intervention politique sur deux jambes, d'une part une remise en ordre plutôt autoritaire de l'État, mais d'autre part des promesses sociales, on en parlera je crois dans l'émission qui suivra, une remise en cause de l'aspect autoritaire et gestionnaire de l'Union européenne. Autrement dit, pourquoi abandonner la promesse sociale et la promesse d'émancipation sociale à ce genre de mouvement? Ça me paraît non seulement illégitime, mais ça me paraît extrêmement dangereux.
Alors justement, Michael Fessel, dans ce livre Récidive 1938 que vous publiez au PUF, il est question de ce renoncement successif, et notamment sur le terrain social, puisque 1938 c'est quoi? C'est Daladier qui arrive après Léon Blum et qui va en quelque sorte laisser tomber les acquis du Front Populaire.
C'est la fin du Front Populaire et c'est l'abandon, effectivement, en très peu de temps, puisque c'est 2 ans plus tard, 1 an et demi plus tard, l'abandon de toutes les mesures, ou quasiment toutes les mesures sociales prises par Léon Blum, avec Daladier à l'époque d'ailleurs, en particulier les 40 heures, qui était la mesure phare, si je puis dire. Et donc, on a cette idée qui s'installe, parce que quand on pense à 38, en tout cas moi, quand je pensais à 38 avant de m'immerger dans la presse de cette année-là, je pensais d'abord aux questions liées à la guerre imminente, en particulier les accords de Munich, les renoncements de la démocratie française face à Hitler. Mais il y a une autre histoire en 38, parallèle à celle-là, qui est l'histoire d'une démocratie qui, sans abdiquer totalement, la France reste un état de droit, je ne dis pas du tout le contraire, mais renonce à ses principes, tant au plan d'ailleurs social, qu'au plan de l'accueil des réfugiés, qu'au plan de la démocratie elle-même. Parce que les mesures extrêmement dures en matière sociale prises par le gouvernement Daladier vont entraîner des grèves générales qui seront réprimées très fortement.
Alors on va écouter justement une archive d'Édouard Daladier qui date de novembre 38, cette fameuse époque où il y a ces décrets-lois qui s'enchaînent. Et on écoute les arguments du président du Conseil de l'époque.
Un pays déchiré par la discorde ne sauve pas la paix. Nous avons donc voulu mettre un terme d'abord aux agitations sociales, aux incertitudes morales qui avaient divisé si longtemps notre patrie. Les Français sont aujourd'hui plus unis qu'ils ne le furent depuis longtemps. Ils ont tous accepté de servir d'abord la nation. Ils ont renoncé aux manifestations retentissantes et vaines. Et avec la disparition des conflits sociaux, avec le sentiment général de la nécessité de l'effort collectif, ils ont retrouvé la confiance dans leur avenir. Le péril extérieur est-il imaginaire? Est-ce que les 3 millions de soldats étrangers mobilisés au-delà de nos frontières sont brusquement devenus des fantômes? Je tiens à donner l'assurance au monde que la France est au premier rang des puissances qui sont déterminées à empêcher l'Europe d'être entraînée aux catastrophes par des entreprises de domination.
Michael Fessel.
Oui, c'est un discours qui dit ce qu'il dit, c'est-à-dire on a entendu la formule d'ailleurs, il n'y a plus de conflits sociaux. Bon, c'est une formule qui surgit après justement une tentative des ouvriers, des salariés de résister à la politique que mène Daladier et tentative qui effectivement échoue. Mais alors à partir de ce moment-là, à partir de cet échec, échec lié d'ailleurs à une forte répression, hein, l'usage des gaz lacrymogènes et beaucoup d'arrestations. Après cet échec et c'est très général, c'est très révélateur ce qu'on vient d'entendre, je trouve. Le curseur, ce politique français
se déplace vers la droite.
Non seulement vers la droite, mais aussi vers l'identitaire, le culturel. Vous avez entendu, la France, une, indivisible. Bon, alors, une et indivisible, ça veut dire ayant fait le choix, d'ailleurs sincère, de la part de Daladier, mais malgré tout tragique, hein, à mon avis en tout cas très qu'on doit remettre en cause, auquel on doit réfléchir plutôt, le choix, d'une certaine manière, de laisser de côté une part importante de sa population, en l'occurrence ici, toutes celles qui étaient représentées par le Front Populaire, par Blum, donc essentiellement les ouvriers, et d'affirmer, disons, la nécessité d'avoir un pays plus autoritaire pour faire face aux dictatures qui entourent l'Allemagne, qui entourent la France, pardon, dont l'Allemagne. Mais c'est pas seulement que, connaissant la fin de l'histoire, je me suis rendu compte que cette méthode, si je puis dire, n'a pas été exactement nourrie de succès, c'est que je me suis aussi interrogé sur cet argument qui consiste à dire qu'un pays, la France en l'occurrence, n'a plus les moyens de son état de droit ou de sa tradition d'accueil à l'égard des réfugiés ou de sa redistribution sociale, que face aux périls qui montent dans le monde et en Europe, à ces états de plus en plus autoritaires ou populistes, eh bien, il fallait en quelque sorte, pour les combattre, renoncer à un certain nombre de nos principes. Et s'il y a une conviction que j'ai acquis en lisant cette presse de 38, en m'immergeant dans cette année, c'est qu'en réalité, contrairement à ce qu'on dit, les démocraties ne sont pas faibles par essence. Ce n'est pas parce qu'on palabre ou on discute dans les parlements, ce qu'on ne fait plus en 38, que l'on est faible. Les démocraties deviennent faibles lorsqu'elles sont affaiblies par ceux qui sont censés la représenter.
Et pour vous, ça a un écho aujourd'hui, très clairement. C'est quoi nos renoncements aujourd'hui, Michael Fessel?
Eh bien, pour prendre quelque chose qui est parallèle, évidemment pas un retour, une reproduction à l'identique, on sait bien qu'il y a aujourd'hui un combat en Europe, un conflit entre des pays qui tiennent a priori en tout cas à maintenir une politique d'accueil à l'égard des réfugiés qui soit en principe, je répète bien, généreuse, et puis des pays, l'Italie est un exemple, je dirais, à la fois parlant et inquiétant, qui marque leur rupture. Bon, alors on nous dit et on nous explique que, et on a raison de le faire en France, le gouvernement français, que notre tradition à nous, c'est l'accueil et que nous n'allons pas tomber dans les pièges du populisme. Le problème, c'est qu'on a déjà intériorisé, en tout cas sur cette question-là des réfugiés, le discours et les réflexes de pensée de ceux qui s'opposent à toute forme, je dirais, de respect du droit d'asile, puisque nous avons accueilli beaucoup moins, de facto, de réfugiés que l'Italie, sans parler même de l'Allemagne. Autrement dit, il y a aussi une crise des réfugiés en 38, c'est pour cela que j'en parle. Ce n'est pas évidemment, la même crise, les mêmes processus, je dirais, historiques, mais ce qui est tout de même semblable, c'est cette espèce d'évidence selon laquelle, dans une période de crise, et nous sortons nous aussi d'une crise, ou n'en sortons pas d'ailleurs, d'une crise du capitalisme, comme en 1938, celle de 29, dans une période de crise, la France ne peut plus accueillir personne. Parce que la question qui se pose, c'est possible, hein, d'ailleurs, hein, moi je ne pense pas, mais enfin, pourquoi pas. La question qui se pose inévitablement, c'est la suivante. Si Les démocrates, les progressistes mènent une politique dans ce domaine qui est une politique pratiquement similaire sur la question des réfugiés à ceux qu'on appelle les populistes, les nationalistes. Alors pourquoi faudrait-il encore les défendre? La démocratie, pour se défendre, elle a besoin d'affirmer ses principes.
Et une dernière question là-dessus, Michel Fessel. Pourquoi est-ce qu'une société en arrive à un moment à se dire bof, quoi, à quoi bon?
Il y a une fatigue démocratique, une lassitude démocratique qui s'installe en règle générale justement lorsque la promesse démocratique n'est plus respectée. Promesse démocratique, à mon sens, ne veut pas seulement dire maintien des libertés, garantie d'un certain nombre de nos libertés individuelles et économiques. Promesse démocratique, c'est la promesse aussi du progrès social, de l'émancipation économique. Je dirais que personne n'est, c'est une leçon de l'histoire, personne n'est spontanément, naturellement démocrate. On le devient lorsque l'amour pour l'égalité renforce notre goût pour les libertés. Par conséquent, on peut être aussi fatigué de la démocratie. La démocratie, c'est vrai qu'on y discute beaucoup et puis on ne prend pas de décision immédiatement, de manière autoritaire. Pour combattre cette fatigue, il faut certainement montrer que le goût pour la liberté n'est pas exclusif du progrès.
J'aimerais bien qu'on dise un petit mot de votre parcours à présent, Michel Fessel. Vous êtes alsacien, vous avez grandi à Mulhouse, dans une famille d'enseignants, parents professeurs d'allemand. Alors, on sait bien que les enfants de profs sont prédestinés à des parcours d'excellence. Hein.
C'est connu. Mon amour pour l'Allemagne, celle d'aujourd'hui, pas celle justement des années 30, vient de là.
Elle vient de là, évidemment, c'est juste en face. Vous étiez quoi? Un élève, un bon élève?
J'étais plutôt un bon élève, je le suis surtout devenu. J'étais, dans mon souvenir, au collège et au lycée, plutôt bon élève, mais pas extraordinaire. Je suis pas devenu extraordinaire après, mais je veux dire pas spécialement. J'ai commencé à être un bon élève quand j'ai fait uniquement ce qui me plaisait, c'est-à-dire les matières littéraires. Donc il y avait, disons, des matières scientifiques. J'ai un peu honte, étant professeur à Polytechnique, de le dire et de l'avouer, mais enfin c'est ainsi. Tant qu'il y avait des matières scientifiques, ma moyenne était un peu plus basse.
Alors il paraît que c'est un livre qui vous a mis le chemin de la philosophie. La symbolique du mal de Paul Ricoeur, un livre offert par des amis de vos parents. Qu'est-ce qui vous a plu
C'est évidemment très relativement ancien maintenant, puisque c'était à 15 ou 16 ans. Ce qui m'a plu d'abord, c'était, en fait, je crois pouvoir le dire, parce que c'est un livre sur le mal, et puis d'un auteur qui n'est pas forcément l'auteur qu'on lit quand on est adolescent, c'est pas Camus, c'est pas Sartre. Ce qui m'a plu, c'est que je ne comprenais pas tout, mais ne comprenant pas tout, et certainement étant loin de comprendre tout, j'ai quand même senti qu'il y avait quelque chose à comprendre, si vous voulez. Par conséquent, je me suis simplement mis à vouloir comprendre, parce que quand vous tombez sur une phrase, c'est vrai sans doute dans quantité de discipline, hein, quand vous tombez sur une phrase qui tout d'un coup vous éblouit ou vous rend simplement la vie plus compréhensible, ce qui est le cas, ce qui est le but de la philosophie, et que cette phrase est entourée de toute une série de propositions, elles, qui demeurent obscures, vous vous dites, après tout, je vais quand même essayer d'aller au bout de cela, parce qu'il y a certainement une promesse ici qui mériterait d'être tenue.
Voilà, et c'était donc parti pour la philo. Il y a eu classe prépa, Hippocagne, Cagne, normal sup, parcours d'excellence, hein, à tous les points de vue, l'agrégation de philo. Vous avez enseigné à l'université de Bourgogne, et là, depuis 2013, donc vous êtes à Polytechnique, où vous occupez la chaire de philosophie. Vous formez quoi? Les futurs décideurs? Ceux qui seront décideurs, qui auront le pouvoir? C'est quoi votre objectif? C'est de semer un petit doute chez eux, de les amener à réfléchir, qu'ils laissent leur certitude de côté? C'est quoi?
Les élèves des grandes écoles, évidemment, sont je dirais, symétriques des étudiants auxquels j'ai enseigné à l'université, qui avaient choisi la philosophie, c'est-à-dire autant à l'université, en philosophie en tout cas, qui est une discipline qui ne se porte pas forcément très bien au niveau académique, eh bien, je vivais en tout cas mon rôle comme essayer d'apporter quelque chose des certitudes, justement, et peut-être de donner des dogmes, mais en tous les cas de rassurer un peu. Dans les grandes écoles, évidemment, au moins, et c'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle j'ai opté pour ce choix, très égoïstement, je dirais, la question de l'avenir social des élèves, en l'occurrence, ne se pose pas, donc je n'ai pas à me la poser non plus, ce qui donne aussi une forme de liberté, d'ailleurs de très grand confort. Après, évidemment, j'adapte non pas le contenu, mais la forme de mes cours au public auquel je m'adresse. Mais vous savez, j'ai affaire à l'école polytechnique, comme j'avais affaire avant à l'université, d'abord à des étudiants et des étudiantes qui ont une vingtaine d'années, 22 ans, et je ne présuppose pas ce qu'ils deviendront. Je sais bien, évidemment, que quand on est à l'école polytechnique, on deviendra, comme on dit, la plupart du temps décideur, mais j'essaie de ne pas y faire attention, enfin si, finalement, de ne pas y faire attention pour, d'une certaine manière, simplement faire ce que j'ai à faire, c'est-à-dire essayer de leur donner goût à la philosophie.
Alors, Michael Fessel, vous nous avez dit il y a quelques instants que vous aimiez l'Allemagne.
Hein, ouais, Berlin, surtout.
Surtout Berlin, vous vivez à Paris, mais en partie à Berlin, quand vous le pouvez. C'est pourquoi cette ville? Qu'est-ce qu'elle a de fascinante?
Cette ville, c'est pas sans écho avec ce qu'on disait tout à l'heure sur Notre-Dame. Évidemment, c'est une ville qui est très différente de Paris par le simple fait qu'elle n'a pas de passé glorieux. Et même architecturalement, elle a été rasée en 45, d'une certaine manière. C'est une ville qui échappe à la tentation de la muséification ou du patrimoine. Il n'y a rien, il n'y a simplement pas de monuments, et même s'il y en avait, d'ailleurs, on aurait du mal, compte tenu du passé de Berlin, récent en tout cas, à s'y consacrer. Par conséquent, c'est une ville sans doute et incontestablement moins belle que Paris, mais qui est peut-être plus vivante, d'une certaine manière plus douce. Moi, même par rapport au livre dont on a parlé, je suis sensible au fait que la démocratie, le goût pour la démocratie, se nourrit souvent d'une grande mémoire du pire. Et Berlin, bon, est travaillé par cette double mémoire qu'a été le nazisme, puis pour la partie est, le communisme dictatorial, si je puis dire. Par conséquent, on y a des expériences démocratiques à la fois, je dirais, dans le fait d'un certain égalitarisme heureux, et puis un goût aussi de la liberté individuelle qui est plus grand parce que la mémoire, sans doute, même si la plupart des gens maintenant n'ont plus vécu ces périodes, la mémoire de ce qui n'est pas la démocratie y est plus forte. De ce point de vue, c'est une ville plus habitable, je trouve, que ne le sont devenus souvent les centres urbains traditionnel, si je puis dire, Paris, Londres, Rome.
Alors, on va vous ramener à Paris, Michael Fessel, avec Sandrine Houdin et ses bonnes ondes, parce que vous allez voir qu'il y a aussi des initiatives formidables ici en France, et notamment pour plus d'égalité. Bonsoir, Sandrine.
Bonsoir.
Ce soir, on va s'intéresser à une initiative qui prend de l'ampleur, Coiff in the Street, un mouvement lancé par un coiffeur marseillais il y a un an tout juste. En avril dernier, Kevin Ortega a lancé la coiffure de rue. Sur ses jours de repos, il propose des coupes gratuites aux sans-abri, et vu l'émotion que ça suscite chez les intéressés, il appelle tous ses collègues à suivre son exemple et ça marche.
Plus d'une quinzaine de coiffeurs ont déjà brandi la paire de ciseaux banco pour Charline à Annecy, pour Lisa et Lorelai à Toulouse, pour Anissa à Narbonne, pour Tiffany à Arles. C'est parti aussi à Angers, à Lille, à Strasbourg, à Bordeaux, peut-être à Caen très bientôt. À Paris, Sidi Bensala a très vite rejoint le mouvement. Il est coiffeur à Luzarches dans le Val d'Oise. Un dimanche par mois, il quitte sa petite famille pour marauder dans les rues de la capitale avec ses peignes et son rasoir.
Alors évidemment, sur le trottoir, il n'y a pas de bac, pas de séchoir, pas de carnet de rendez-vous, mais pour le reste, c'est pareil. Même coupe, même rasage. Vous avez retrouvé Sidi Bensala dans le quartier de la Gare du Nord à Paris. Il était alors avec son tout premier client de la journée.
Comment tu veux que je te les coupe? Pas trop court?
Bah, tu fais un truc punky, quoi.
Ouais. C'est la première fois que ça vous arrive?
Accosté pour qu'on me coiffe les cheveux? Oui, c'est la première fois.
Comme ça? Ou un peu plus court?
Un tout petit peu plus court.
Encore un peu plus court? On coupe pas mal alors?
Ouais.
Allez,
ouais.
C'est parti, on y va.
Spike vient de troquer son vieux blouson de cuir râpé pour une jolie blouse rayée noire et blanche.
Ah, on peut dire que ça surprend.
Ça fait combien de temps que vous êtes pas fait couper les cheveux chez un coiffeur?
Ouh, ça fait longtemps. Ouh là là, d'habitude, je prends les petits ciseaux et clic, clac, clic, clac. Pris comme ça, on va dire en charge par un coiffeur, c'est fantastique.
Comme ça, assis sur le trottoir?
Voilà, assis sur le trottoir.
C'est quoi ça, Sidi?
Ça, c'est un petit shampoing sur cheveux secs pour les nettoyer un petit peu, les purifier.
Merci.
Spike s'abandonne, Sidi lui frictionne le cuir chevelu.
Pour moi, c'est naturel, c'est normal. Qu'ils aient un peu les cheveux sales ou pas, enfin, ça change rien à ma vie, quoi. Je vais pas en mourir. Je coiffe les SDF dans la rue comme si j'étais dans mon salon de coiffure. T'es souvent sur Gare du Nord?
Oui, assez souvent, ouais.
Ouais. Ah, je suis content de pouvoir te coiffer là, ça va te faire du bien, tu vas voir.
Merci, Sidi, merci beaucoup à toi.
Beaucoup d'émotions.
Ouais. Oui.
Combien de temps de rue pour vous?
Oh là, beaucoup.
L'aspect physique est éminemment important pour vous tous?
Ouais, si on veut s'en sortir, oui.
Il y a plein de personnes qui peuvent se dire, de toute façon, ils sont à la rue, ils s'en fichent de leur aspect physique, pas du tout.
Ah mais c'est ça qui est le plus grave, c'est ça qui est le plus difficile. C'est que plus on avance dans la rue, plus on se déteste, on finit par se détester.
On finit par se dégoûter de soi-même?
Oui, c'est ça, texto.
Vous avez déjà une autre tête là, hein?
Ah, c'est génial, merci de me le dire. Parce qu'en ce moment, j'ai le moral qui n'est pas terrible.
Vous ne faites que la coupe ou autre chose, Cédric?
Bah, s'il y a la barbe et ils veulent faire la barbe, il y a possibilité aussi.
Ils se touchent, là. Ils se touchent la joue.
Bah oui, moi je veux bien.
En général, Sidi, la réaction des passants?
Il y a de tout. Il y a des gens qui vous regardent un peu bizarrement, il y a des gens qui vous disent merci de faire ce que vous faites. Il y a de tout. Tu peux remettre tes lunettes hein, si tu veux, je vais te montrer avec le miroir.
Waouh! Wow, génial!
Bien?
Ah, super! Ah, vraiment! Je suis scotché là.
Et visiblement, il n'est pas le seul.
Il n'y a pas de jour où vous êtes à un endroit.
J'ai pas d'endroit spécifique. Après, je suis souvent dans le 18e, dans le 10e. Je me balade en fait, je marche énormément.
Comment vous trouvez ça, un coiffeur comme ça qui
Mais
vient?
C'est super. Quand on est dehors dans la rue, moi qui ai vécu qu'à cette expérience, un coiffeur qui arrive là où vous êtes, sur votre carton, je sais pas où, ça fait vraiment plaisir. Comme les gens qui donnent la nourriture. Lui, c'est le coiffeur, mais c'est une autre nourriture.
C'est une autre nourriture.
Une autre nourriture, tout à fait. C'est quelqu'un qui a fait 20 ans, 25 ans dehors qui vous parle, donc c'est un peu de quoi je parle.
Est-ce que, au-delà de l'apparence, c'est aussi important qu'on s'occupe de vous?
Mais bien sûr, parce que la plupart des personnes qui sont à la rue, c'est souvent une perte. La perte des parents, la perte du travail, la perte de la femme, la perte des enfants. Donc, le fait qu'on vienne près de vous, vous amener quelque chose, ça remplace un petit peu l'affection, vous voyez, c'est de l'amour un peu, voilà, ça remplace votre mère, votre père, votre travail, tout ce que vous avez perdu avant.
Ça fait plaisir à entendre.
C'est un salaire?
Mieux qu'un salaire. Mieux qu'un salaire. Parce que l'argent, ça rentre, ça sort. Mais ce que tu fais avec le cœur, ça reste. Et ça, personne ne pourra jamais te l'enlever. Personne, mais personne ne pourra te l'enlever. C'est, je sais pas comment vous dire. Ma mère, étant tout petit, à mes frères et sœurs, elle nous a toujours appris, les enfants que vous possédiez dans votre vie quand vous serez plus grand ou que vous ne possédiez pas, donnez. Et c'est vrai que quand je rentre le soir chez moi, j'ai toutes ces images de ma journée et ça, ça n'a pas de prix. Il faut juste le vivre pour comprendre.
Ah, c'est ma maman qui va être contente quand elle va me voir, je ne sais pas quand.
T'enlever le peignoir.
Ah, super.
C'est dit? Maintenant, c'est ménage?
C'est ça. Bah maintenant, comme tu peux constater, je mets toujours une bâche par terre pour pas laisser la rue pleine de cheveux. Donc, je ramasse tout et je mets tout à la poubelle après. Comme ça, la rue est propre, ni vu ni connu.
Jusqu'au prochain.
C'est ça, exactement.
C'est parti, là?
Let's go.
Merci, Sandrine, pour ce reportage. On peut trouver toutes les infos sur la page Facebook. Coiffe in the street, c'est ça?
Exactement.
Merci beaucoup, Sandrine. Michael Fossel, je voulais écouter ce reportage. C'est rassurant quelque part?
Bien sûr, c'est rassurant quand dans la société, il y a des individus qui prennent un peu à bras le corps des problèmes d'inégalité qui ne sont pas toujours traités par l'État comme on le souhaiterait. Et puis surtout, mais j'y pensais parce que ça arrive souvent à Paris, j'imagine aussi dans les autres villes, lorsque un SDF arrive dans le métro ou dans le RER, nous avons en tout cas moi, j'ai, je crois pas être le seul, tendance comme ça à avoir un petit peu de crainte ou à rester un peu en retrait. Et puis on admire souvent les gens les gens qui vont vers eux, qui ne se laissent pas aller aux apparences, qui peuvent non seulement leur donner de l'argent mais leur parler. Je trouvais très émouvant que dans votre reportage ce coiffeur justement passe la première gêne qu'on peut avoir vis-à-vis de ce qui ne nous ressemble pas, pour rappeler qu'après tout, un SDF, comme on le dit, un clochard, comme on le disait, c'est quelqu'un qui a un corps. Et par conséquent, que le toucher, au sens simplement là ici, de lui couper les cheveux, de lui faire un shampoing, c'est une manière aussi de lui rendre sa dignité, parce que c'est précisément ce qui, j'imagine, je ne peux que l'imaginer, advient dans les situations de pauvreté extrême, c'est que son corps devienne une charge permanente.
Exactement. Merci beaucoup, Michael Fossel, de nous
Merci
avoir accompagnés depuis 18h. Je rappelle le titre de votre dernier livre, Récidive 1938 au PUF. Il y a aussi la réédition de votre livre Après la fin du monde en poche. Il y avait encore plein d'autres choses dont j'aurais aimé parler avec vous, notamment du monde de la nuit, puisque vous êtes un noctambule. Mais on a été pris par le temps. En tout cas, vous restez avec nous, puisque tout à l'heure, il y aura le téléphone sonne qui sera consacré au projet européen. C'est un partenariat avec Philosophie Magazine. Le projet européen, où en est-on? L'idée européenne, où en est-on? Vous pouvez déjà nous appeler au 01 45 24 7000.